un personnage, un cul simplé. C'est un personnage qui a bel et bien existé, et Bill Griffith a fait un travail de documentation phénoménal, a même travaillé jusque les dernières années de vie de Tête d'épingle en trouvant qu'il avait été à un moment donné abandonné dans un asile pour aliénés à cause de ses différences et qu'il avait été redécouvert par hasard par des gens avec qui il avait vécu l'époque du cirque des foires de personnes anormales. Et il a été sorti par ces gens-là de l'asile pour pouvoir avoir une fin plus libre, plus heureuse. Et c'est un livre extrêmement émouvant que ce freak, pardon, que ce Tête d'épingle de Bill Griffith, publié chez Presque Lune. Un autre bouquin, celui-là ici, émane du Québec. Ça s'appelle Blass, B-L-A-S-S, Le chat sur un toit brûlant. C'est publié par l'éditeur Glénat, qui a une antenne au Québec. Et les auteurs sont Villot, au scénario, et Bonnier, B-O-N-N-I-E-R, au dessin. C'est en noir, blanc et gris, et c'est l'histoire d'un criminel abominable qui a fait un peu les fous gras de la presse spécialisée telle Allopolis. C'est donc pas un hasard qu'un certain Poirier qui signait dans Allopolis, qui avait développé certaines relations journalistes-criminels avec Blass, qui rédige la préface de ce livre-là, qui est donc un livre qui narre les exploits et je dirais les écarts de conduite de Blass, qui combattait la mafia italienne, pas pour des motifs nobles, mais tout simplement pour prendre sa place sur le plan criminel. Donc, Blass, le chat sur un toit brûlant par Villot et Bonnier, publié chez Glénat. Puisqu'on est en pleine journée de la femme, ce serait dommage de ne pas parler d'une monstrueuse. Il s'agit d'un livre intitulé Fleurs de tonnerre. Tout un programme. Il s'agit d'un roman écrit par Jean Teulé il y a plusieurs années, qui est repris par deux BDistes qui sont Jean-Luc Cornette et J-U-R-G, et c'est publié chez Futuropolis. Ça se passe dans la Bretagne médiévale, la Bretagne profonde, qui est en même temps d'une religiosité, d'une piété extrême, mais en même temps qui est engluée dans certaines visions, peut-être païennes de la mort, entre autres, avec cette espèce de personnage à la faux qui se promène avec une charrette et qui va cueillir ici et là des clients pour l'enfer, peut-être. Alors, Fleur de tonnerre, c'est une jeune fille qui, très tôt, découvre une espèce d'attrait malsain pour des plantes qui donnent la mort, et entre autres aussi le poison qu'est l'arsenic. Alors, elle fabrique des biscuits, des gâteaux, afin de donner la mort discrètement. Et à cette époque, comme la science policière n'est pas très, très avancée, elle a pu tuer nombre de personnes. Fleur de tonnerre, donc, un livre assez stupéfiant, un livre avec un humour noir par la répétition de crimes un peu lancinant, quoi. Très beau livre, très bien dessiné, définitivement. Fleur de tonnerre, c'est un peu l'histoire à la Violette Nozière. C'est par les auteurs Jean-Luc Cornette et Jurg J.U.R.G. D'un roman de Jean Teulé, et c'est publié chez Futuropolis. Alors voilà donc pour ce petit tour de piste monstrueux de l'année 2020 en bande dessinée.
Sur la feuille monte, on marche libre et heureux comme des prisonniers qui voient le ciel.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
From New York, this is Democracy Now!
Many millions of workers are earning starvation wages, and I underline that, starvation wages in this country. I'd love to hear anybody get up here and tell me that they could live on $7.25 an hour. They could live on $8 an hour. They could live on $9 an hour. You can't.
As the Senate votes to begin debate on President Biden's $1.9 trillion COVID relief package, Senator Bernie Sanders is pushing an amendment to increase the federal minimum wage. We'll talk about the fight for 15 with the Reverend William Barber of the Poor People's Campaign. Then the House has passed H.R. 1, the most sweeping pro-democracy bill in decades, at a time when Republicans are pushing over 250 state laws to restrict voter access. We'll speak to newly elected New York Congressmember Mondaire Jones.
Many people were surprised that I defeated a billionaire who tried to purchase this congressional seat. But my election should not be the exception to the rule. Rather, it should be the norm. Once we pass H.R. 1, it will be.
Plus, as the House passes the George Floyd Justice and Policing Act, we'll speak to longtime organizer Mariam Kaba, author of the new book, We Do This Till We Free Us, Abolitionist Organizing and Transforming Justice. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the Quarantine Report. I'm Amy Goodman. The Senate has begun work on a $1.9 trillion coronavirus relief package after Vice President Kamala Harris broke a 50-50 tie on a procedural vote allowing debate to proceed Thursday. But the debate quickly ground to a halt after Wisconsin Republican Senator Ron Johnson forced Senate clerks to read the entire text of the stimulus bill aloud, more than 100,000 words spanning 628 pages.
As the American Rescue Act of 2021, Section 2, Table of Contents. The table of contents for this act is as follows. Section 1, short title. Section 2, table of contents. Title 1, Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry.
The clerks subtitle began A, reading mid-afternoon Section Thursday and finished after midnight, 10 hours and 43 minutes later. The legislation now heads to a session known as a voterama, where any senator will be able to offer an amendment that could drag out debate for hours or even days.
The United States recorded nearly 1,800 new COVID-19 deaths Thursday, pushing the U.S. death toll since the start of the pandemic to over 520,000. For the first time, a seven-day average of vaccinations has topped 2 million doses, though just 8.4% of the U.S. population is fully vaccinated. On Thursday, White House Press Secretary Jen Psaki defended President Biden's remark that Republican governors who've lifted mask mandates are guilty of Neanderthal thinking.
He believes that if we're going to get this pandemic under control, we need to follow public health guidelines. He simply asked the American people to abide by wearing masks for 100 days. We're at about day 40. Are we at day 40? Around there. 60 more days.
On Wednesday, Alabama Republican Governor Kay Ivey said she would end a statewide mask mandate on April 9th, joining Mississippi and Texas. Alabama has one of the lowest COVID-19 vaccination rates in the United States. The Wall Street Journal and the New York Times are reporting top aides to New York Governor Andrew Cuomo pressured state health officials to alter a July report in order to cover up the true number of COVID-19 deaths in nursing homes. The report was edited to only count people who died inside the nursing facilities, excluding those who got sick there and then were sent to hospitals and later died there, leaving out thousands of fatalities. The report was released as a response to criticism of Cuomo's order in March 2020, barring nursing homes from rejecting recovering coronavirus patients that were discharged from hospitals, which some feared would further spread the virus. Last spring, Governor Cuomo signed legislation shielding nursing home executives from lawsuits related to their handling of the pandemic. This comes as one of three women who've accused Cuomo of sexual misconduct gave her first TV interview Thursday. Former aide Charlotte Bennett told CBS News anchor Nora O'Donnell that Governor Cuomo repeatedly made inappropriate comments to her, including questions about whether her experience with sexual assault had impacted her sex life.
He asked me if age difference mattered. He also explained that he was fine with anyone over 22.
And how old are you?
25.
What were you thinking as he's asking you these questions?
I thought he's trying to sleep with me. The governor's trying to sleep with me. And I have to get out of this room as soon as possible.
Charlotte Bennett said she did not believe Cuomo's statement Wednesday acknowledging his accusers' claims constituted a true apology. She said, quote, "It's not an issue of my feelings. It's an issue of his actions," unquote. Top Florida Democrats have called on the acting U.S. Attorney General and the FBI to investigate Republican Governor Ron DeSantis for corruption and wrongdoing after reports that most residents over 65 in a wealthy Key Largo community had received vaccines by mid-January. 17 residents donated $5,000 each to DeSantis's political committee prior to the vaccinations. The former Republican governor of Illinois, Bruce Rauner, also a resident of the community, increased his contribution to $250,000. This comes amidst accusations that Governor DeSantis prioritized wealthy communities that were connected to political donors for vaccination pop-up sites. In Geneva, Switzerland, members of Doctors Without Borders held a protest outside the headquarters of the World Trade Organization Thursday, demanding a waiver on patent rights for COVID-19 drugs and vaccines. South Africa and India are leading an effort that would temporarily allow for the production of generic versions of the life-saving products. Stephen Cornish, director general of Doctors Without Borders Switzerland, joined Thursday's protest.
If we had the waiver, we'd be able in a number of countries to scale up production right now, which would allow for the diagnostics, the medicines and the vaccines to get where they're needed most. Right now, we're seeing just a trickle of vaccines making it to the global south. And this is just not acceptable in today's world.
In Arkansas, the man photographed with his feet propped on House Speaker Nancy Pelosi's desk during the January 6 assault on the Capitol shouted at a federal judge Thursday that it was not fair he was being held in jail ahead of his trial. Richard Barnett has pleaded not guilty to felony charges, including obstruction of Congress and disorderly conduct in a restricted building with a dangerous weapon. In Virginia, federal agents have arrested former Trump administration official Federico Klein, charging him with assaulting a police officer with a dangerous weapon during the January 6 attack. Klein worked on Donald Trump's 2016 campaign and served as special assistant in the Bureau of Western Hemisphere Affairs at the State Department. He's also a former U.S. Marine who was deployed in Iraq. This comes as federal agents are probing communications between pro-Trump insurrectionists and members of Congress or their staffers. On Thursday, the U.S. Capitol Police requested a 60-day extension of the National Guard's mission, helping to protect Congress. If approved, as many as 2,200 troops could remain on Capitol Hill into May. The Senate Energy Committee has advanced Interior Secretary nominee Deb Haaland's confirmation to a full Senate vote, where Haaland is almost certain to be confirmed. Senator Lisa Murkowski of Alaska was the only Republican on the committee who supported Haaland's nomination. Murkowski said she struggled with her decision as her constituency in oil-rich Alaska is concerned about Haaland's opposition to fracking pipelines and fossil fuel development. If confirmed, Deb Haaland would be the first Native American to serve in a cabinet post in U.S. history. The U.N. is urging Eritrean troops to leave Ethiopia's northern Tigray region, where there have been reports of many atrocities by multiple parties in the ongoing conflict. This is U.N. Human Rights Office spokesperson Ravima Shamdasani.
A preliminary analysis of the information received indicates that serious violations of international law, possibly amounting to war crimes and crimes against humanity, may have been committed by multiple actors, including the Ethiopian National Defense Forces, the Tigray People's Liberation Front, Eritrean Armed Forces, and Amhara Regional Forces and affiliated militia. Deeply distressing reports of sexual and gender-based violence, extrajudicial killings, widespread destruction and looting of public and private property by all parties continues to be shared.
The UN also warned of potentially catastrophic hunger and said it's still lacking the necessary access to deliver aid. Pope Francis has landed in Iraq for a much-anticipated three-day visit, where he hopes to rally the shrinking Christian community. Francis will meet with other religious leaders later today at Baghdad's Our Lady of Salvation Church, where a 2010 massacre by fighters affiliated with al-Qaeda killed over 50 people. Pope Francis' trip is also expected to include stops at historic religious sites in northern Kurdistan, where he will hold an outdoor mass for thousands in Erbil. It's the first time a pope has visited Iraq. In Italy, dozens of humanitarian aid workers have been charged with complicity in human smuggling after saving thousands of refugees from drowning in the Mediterranean as they attempted to reach European soil. The charges against over 20 humanitarian aid workers with groups including Doctors Without Borders and Save the Children come after a four-year investigation by the Italian government, which in recent years has increasingly criminalized both refugees and rescuers. The charges carry a sentence of up to 20 years in prison each. Back in the United States, the Transportation Department's Inspector General has found the department's former secretary, Elaine Chao, the wife of Senate now Minority Leader Mitch McConnell, repeatedly misused her office to help family members, including her father and sister, who run a global shipping business with large operations in China. The Inspector General's report was referred to Trump's Justice Department last December, which declined to open a criminal investigation. Meanwhile, The Intercept reports Mitch McConnell has prepared a short list of candidates to succeed him as Kentucky senator in the event he does not serve out his full term. Normally, the governor, in this case, Democratic Governor Andy Beshear, would appoint a replacement. But Republicans are pushing legislation in the Kentucky General Assembly that would strip him of that power. At the top of McConnell's list is State Attorney General Daniel Cameron, who's facing calls for impeachment over his mishandling of Breonna Taylor's case. The young EMT, who was killed by police in a no-knock raid of her home last March. Texas's power grid operator, ERCOT, overcharged customers by $16 billion during last month's historic winter storm that caused power outages across the state, according to a watchdog filing. The Electric Reliability Council of Texas, ERCOT, which sets the price of electricity, kept the emergency surge pricing in place for 33 hours longer than needed. In related news, the president and CEO of ERCOT, Bill Magness, was fired Wednesday amidst the ongoing fallout. And in Honduras, Vice reports leaked documents have revealed the government of President Juan Orlando Hernández paid hundreds of thousands of dollars in bribes to over 70 journalists as part of Hernández's efforts to control the press. The accusations are part of the latest corruption case against Hernández's government. He's a key U.S. ally. This comes as a group of Democratic Congress members have reintroduced the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act, which would suspend military aid to the Central American country until the Honduran government investigates allegations of human rights violations by their security forces. The bill is named after beloved Lenca indigenous land and water defender Berta Cáceres, who was assassinated March 3, 2016, a day before her 45th birthday. In 2017, The Guardian reported the extrajudicial killing had been planned by military intelligence specialists linked to Honduras's U.S.-trained special forces. Cáceres would have turned 50 this week. In 2019, Democracy Now! Spoke to one of her daughters, Laura Zuniga Cáceres, in Madrid, Spain.
Then we see how the United States government continues to support governments in Honduras, which are highly repressive and violators of human rights. The United States supports these governments, particularly in the area of militarization. And at the time of my mother's murder, one of the things that caught our attention is that it was said that members of the FBI were investigating her killing, which the U.S. Embassy never clarified, even though it was not true, and the U.S. Embassy allowed the Honduran state to create that false narrative.
To see our coverage of Berta Cáceres' life and death and our 2019 interview with her daughter, Laura Zuniga Cáceres, at the UN Climate Summit in Madrid, visit our website, democracynow.org. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman.
Que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Thank you. fierro llorona mis penas, le conté yo. A un santo Cristo de fierro llorona mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Pendant, produit en collaboration avec CKT 90,3 FM. Ici Florence Bélepage à l'animation en compagnie de ma collègue Audrey Gosselin-Pellerin. À travers cette émission féministe, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, de mettre de l'avant des pistes d'action féministes et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leur savoir et leurs expériences. Pandore est également une émission sur les ondes du CKUT 90,3 FM. Nous sommes diffusés le mercredi à 18h tous les trois mois dans le cadre de Hersey. Surveillez notre page Facebook pour connaître nos dates de diffusion. On rappelle qu'AV Pandore est produite à Montréal, en territoire Mohawk, non cédé. Et aujourd'hui, dans cet épisode, un sujet qui touche la santé sexuelle. Ma collègue Audrey Gosselin-Pellerin a rencontré Nesrine Bessaï et Lorraine Fontaine de l'Accord féministe. C'est en fait la collective pour un ouvrage de référence participatif sur la santé féministe. La collective travaille présentement sur l'adaptation en français de l'ouvrage « Our Bodies, Ourselves », un livre culte sur la santé des femmes. Alors, on a voulu en savoir plus sur leur démarche. À toi, Audrey.
Bonjour, je m'appelle Nesrine. Je fais partie de la collective pour un ouvrage de référence participatif sur la santé féministe, l'Accord féministe. Et avec Lorraine, on est pas mal à la source du démarrage de ce projet de traduction-adaptation de livres.
Moi, je suis Lorraine Fontaine et puis, comme dit Nesrine, ça fait depuis quelques années qu'on rêve à ce projet et puis qu'il prend forme petit à petit avec de nouvelles personnes qui s'ajoutent en cours de route.
J'aimerais ça que vous parliez un peu du concept de santé féministe. Qu'est-ce que ça veut dire de penser la santé à travers la lunette féministe?
Comprendre que notre vision comme société, c'est que la santé est quelque chose, est l'affaire des savants, savants médecins, souvent savants, etc. Et ce processus de santé féministe, c'est reprendre le pouvoir sur sa propre santé, aller chercher l'information pour être l'agente principale des décisions en lien avec notre santé. C'est-à-dire, cette analyse féministe tient compte des construits sociaux de patriarcat, de genre, etc., qui ont un impact sur notre vision de nous-mêmes et qui peuvent influencer nos décisions. Donc, c'est d'essayer d'ouvrir cette boîte-là puis de la comprendre les influences.
Mais je pense aussi qu'il y a une dimension de ce qui est de la santé globale, dans le sens que la santé féministe inclut une part, en partie, la santé globale aussi, c'est-à-dire d'avoir une vision non compartimentée de ce qu'est la santé. Au lieu de voir que t'as mal à l'orteil droit, donc on va se concentrer sur ton orteil droit, ben c'est de voir tout ce que l'orteil droit a à voir avec les autres parties du corps. Et aussi, si t'as mal, ben il y a peut-être des raisons qui sont physiologiques, mais elles sont pas exclusives. Il y a peut-être aussi des raisons en même temps qui sont sociales, qui sont politiques, qui sont psychologiques, qui sont environnementales. Donc c'est d'avoir cette approche où on va voir l'ensemble des facteurs qui peuvent déterminer ton état de santé ou de bien-être et une approche qui va regarder ça de façon aussi holistique, qui va regarder ça en lien les uns avec les autres dans les différentes parties de ton toi-même. Là.
Mais c'est que aussi la médecine a été construite avec comme référent le corps de l'homme, comme voici le corps de l'homme et la femme. On a testé des médicaments, on a fait plein de choses au cours des années sur des corps d'hommes. Sans voir la, tu sais, il y a des recherches récentes qui sortent là-dessus et qui, c'est pas notre travail ici, dans cette œuvre de faire cette recherche-là, mais c'est plutôt notre travail de faire des références vers d'autres groupes qui ont des regards critiques, qui ont des informations importantes. Donc, on n'essaie pas de remplacer le travail fait par d'autres, mais de rassembler ces choses-là.
Donc, vous avez créé l'Accord féministe, qui est la collective pour un ouvrage de référence participatif sur la santé féministe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette collective?
Le projet, en fait, cet organisme-là, maintenant, c'est une OBNL depuis 2 ans. Et c'est une OBNL qui a pour seule mission de traduire, adapter et diffuser du matériel qui provient du livre Our Bodies, Ourselves.
Mais qu'est-ce que c'est cet ouvrage Our Bodies, Ourselves, Lorraine? Ça a été publié aux États-Unis et il y a 9 éditions qui ont été sorties depuis. Est-ce que tu peux nous parler un peu l'historique? Puis qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là?
C'est un livre qui contient de l'information biomédicale, mais aussi des témoignages. Donc, toutes les sections sont construites autour de la vie d'une personne. Donc, on a des toutes sortes d'éléments différents venant de la ménopause, de même la grossesse, aussi l'accès à la contraception, la vie sexuelle, les relations, toutes les facettes de ce que c'est être vivant, être humain, dans le fond. Mais c'est une œuvre qui avait comme objectif de, dans le fond, démocratiser l'information, de redonner le pouvoir à la personne elle-même pour qu'elle puisse décider ce qui est mieux pour elle.
Et pourquoi, Nesrine, vous avez décidé d'adapter ce livre-là? Pourquoi pas créer le livre québécois sur la santé féministe? Pourquoi vous sentiez qu'il fallait vraiment s'inspirer de cet ouvrage-ci?
Mais c'est vraiment un ouvrage qui, à l'époque où il a paru, il a révolutionné le milieu féministe. En fait, même, il y a des gens qui lui attribuent le fait d'avoir déclenché le mouvement pour la santé des femmes aux États-Unis. Et avec les années, mais c'est parce que là, on a... il a été vendu à 4 millions d'exemplaires. Il a été révisé, remis à jour 9 fois. Nous, on travaille à partir de l'édition de 2011, qui est la dernière édition qui a été publiée. Et avec les 40 ans que le livre a eu, bien, il a aussi accumulé du savoir. Il a accumulé une façon de travailler. Et on s'est dit, ça va être plus facile de partir d'une version qui existe déjà et ensuite de l'adapter. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traduit, et maintenant, on est dans le processus d'adaptation, ce qui implique d'aller chercher des témoignages qui proviennent du Québec, et aussi que les données statistiques, que les médicaments disponibles, que l'information plus sociopolitique aussi, soient adaptées et proviennent du Québec. Elles ont travaillé, la version américaine, elles ont travaillé à partir d'un lectorat qu'elles avaient depuis 40 ans. Donc, elles ont déjà une assise, elles ont déjà une réputation. Mm-hmm. Déjà, le fait d'avoir un document qui était significatif et qui a eu un retentissement autant aux États-Unis qu'au niveau mondial, là, ça a été traduit en 34 langues. Le fait de partir de ça, ça me donnait en tout cas l'impression de partir avec déjà quelque chose qui était bon à la base.
Et le livre, c'est pas juste un livre, c'est aussi un processus. Et donc, de co-création. Et donc, c'est ça aussi qui nous a comme stimulé de créer un groupe, et puis un groupe ouvert à de nouvelles personnes en cours de route aussi, pas un groupe fermé, et qui chemine avec l'information et qui valide, co-valide, repense. Ça, c'est une partie aussi le défi, parce qu'on peut s'asseoir puis discuter juste d'une phrase puis voir, elle me chicote, pourquoi on veut pas, puis on cherche ensemble. Donc, c'est vraiment un processus collectif qui est plus long.
Vous avez choisi de vous intéresser à un des volets qui est traité dans Our Bodies, Ourselves, et vous avez pris les relations intimes et la sexualité. Pourquoi ce chapitre-ci vous semblait le plus important? Pourquoi c'était important de commencer avec celui-ci? Nesrine?
Mais ça vient, le fait d'avoir pris ça, ça vient d'une rencontre qu'on a faite il y a 4 ans avec, il y avait une quinzaine de représentantes de groupes de femmes, il y avait peut-être une dizaine de représentantes d'elles-mêmes aussi, d'individus, je veux dire. Et on a discuté, donc, si on avait un Our Bodies, Ourselves au Québec, qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Qu'est-ce qu'il faudrait absolument mettre dedans? Donc, tout le monde a pitché ses idées, on a discuté et tout. Et puis, finalement, il y a un des groupes, la Fédération du Québec pour le planning des naissances, qui s'est plus engagé dans le processus. C'est-à-dire que nous, on avait besoin d'avoir, on n'était pas une OBNL à cette époque-là, on avait besoin d'avoir un organisme qui dise, OK, nous, on va aller demander les droits auprès de l'organisme américain, auprès de l'éditeur américain. Et la priorité qui a été définie à ce moment-là, sur quoi on va demander les droits, parce que l'organisme américain disait, on vous donne juste 100 pages, choisissez les biens, lesquels vous voulez. Et on a décidé de prendre celle-là parce qu'il y avait tout un des 4 chapitres porte sur sexualité et handicap, handicap et maladie chronique. Vraiment, on n'a rien quasiment là-dessus en français. C'est beaucoup... en anglais, il y a beaucoup plus de choses qui se font. Donc, c'est ça qui a déterminé de commencer par ces chapitres-là. Et moi, dans un grand fantasme mégalo, je me dis qu'après ça, on va faire les chapitres sur la périnatalité, les chapitres sur la contraception, l'avortement, mais on verra.
Dans son élaboration, pour vous, c'était important d'inclure des témoignages, mais aussi d'autres, il y a d'autres groupes qui sont communautaires ou des groupes de femmes qui sont impliqués. Est-ce que vous pouvez parler un peu des gens avec qui vous collaborez et du processus de témoignage, Nesrine?
Oui, en fait, pour les témoignages, on a 2 façons d'aller en chercher. Bon, sur notre site, www.l'accordféministe.org, il y a un formulaire, puis on invite toutes les personnes qui seraient intéressées à aller témoigner sur leur relation intime, leur sexualité. On a des questions, c'est pas des questions à choix multiples, c'est des questions à développement. Sinon, l'autre façon qu'on a aussi, c'est de passer à travers des groupes de défense de droits, des groupes qui sont déjà constitués. Et là, avec avec ces groupes-là, ce qu'on fait, c'est que nous, on a pris les questions sur les relations intimes et sexualité qui étaient dans le livre américain. On les a traduits, on les a un peu arrangés comme nous, on trouvait qu'elles avaient plus de sens. Puis, quand on rencontre un groupe, on va leur dire, bon, ben voilà les questions que nous, on a posées. Qu'est-ce que vous pensez qui interpelle vos membres? Qu'est-ce qui va vraiment être significatif pour elles? Et si vous voulez, vous pouvez transformer les questions. Donc là, c'est un processus de co-construction, même des questions de ce qu'on va aller chercher comme information. Par exemple, pour la question, quand on a rencontré un groupe de femmes en situation de handicap, on a regardé avec elle les questions, puis la coordonnatrice du groupe a dit, ben nous, c'est super important pour nous, la parentalité. Les femmes en situation de handicap, on leur renie la possibilité d'avoir des enfants, on considère qu'elles ne seront pas capables, donc on a des revendications par rapport à ça, puis on aimerait ça qu'il y ait plus de questions qui portent là-dessus. Fait que là, c'est un processus de co-construction dans la mesure où on veut avoir des témoignages, mais on veut aussi qu'il y ait une forme de parole collective, donc pas juste... pas parce que tu prends une personne qui est en situation de handicap que ce qu'elle va te dire représente ce que pensent les personnes en situation de handicap. Mais en allant voir un organisme qui est déjà établi, qui a déjà un processus et qui a déjà développé une parole collective et politique, mais on se retrouve à donner plus de profondeur à ce qui va sortir.
Tu mentionnais, Nesrine, que vous avez certains défis à aller chercher des gens de divers horizons. Qu'est-ce qu'il y en a des femmes racisées, des femmes immigrantes, des femmes âgées, des femmes trans?
C'est ça. On a fait aussi, on a fait deux entrevues, en fait, avec des organismes, des centres de femmes où il y avait plus de femmes immigrantes et racisées. Mais c'est clair qu'on en a besoin de plus. Puis, le défi aussi de faire ça, c'est de ne pas objectiver les personnes. Comme là, je viens de vous dire, il nous manque des personnes racisées. Oui, mais on ne peut pas juste présumer que parce que c'est une personne racisée, ce qu'elle va dire va être significatif de ce que vivent les personnes racisées en général. Et de toute façon, elles vivent sûrement des choses très différentes les unes des autres.
Il y a aussi, pour aller chercher des témoignages, il y a, la FQPN a trouvé un financement pour que Nesrine et d'autres aillent à la rencontre dans des régions plus éloignées de femmes autochtones, d'entendre comment elles comprennent, elles voient leur intimité, la sexualité, etc. Et puis, ça va être, on a très hâte à ces échanges-là. Puis,
là, vous êtes en train de tirer des témoignages. Est-ce que vous pouvez me dire un peu déjà qu'est-ce que vous ressentez des histoires qu'on vous a partagées à travers le site de l'Accord?
Oui, ben à travers le site, je dirais plus à travers les entrevues de groupe. Nous, on avait décidé que dans les questions, on ne mettait pas de questions sur l'agression sexuelle. On s'est dit que bon, il y avait eu toute une vague de dénonciation des agressions. Il y a des organismes qui sont dédiés à ça. Si on veut absolument avoir des témoignages, on peut aller chercher auprès de ces organismes-là et on ne va pas aller interroger des gens, mettre le doigt en plein dans des blessures pour le bénéfice de faire un livre avec ça. Donc, on s'est dit, on ne met pas de questions là-dessus et on verra comment on va chercher de l'information d'une autre façon. Et c'est frappant à quel point, dans les entrevues de groupe, ça ressort. Ça ressort partout. Des histoires de violence, de souffrance, d'agression. Donc, ça me frappe à quel point on peut pas envisager de parler de sexualité sans parler de violence.
Et là, on a beaucoup parlé de santé féministe et peut-être plus de santé des femmes. Mais je me demandais si, dans votre approche, dans l'élaboration de votre ouvrage, vous cherchez aussi à inclure les réalités et les perspectives des personnes qui sont pas identifiées comme femmes, soit parce qu'elles sont dans un processus de transition, parce que ce sont des personnes non-binaires ou même des hommes trans qui ont peut-être toujours... certaines parties du corps plus associées à la féminité.
C'est-à-dire, c'est les personnes elles-mêmes qui identifient si le livre est pertinent pour elles. Et puis, comme au début, le projet s'appelait « L'accord des femmes », on a changé le nom en cours de route pour l'accord féministe, pour inclure cette analyse féministe, mais pour ne pas exclure les personnes qui ne se considèrent pas femmes. Mais il y a quand même une information qui est liée à notre sexualité, à nos organes génitaux, à toutes ces parties-là que nous considérons encore en société comme femmes, si on veut, là. Et donc, les compagnies pharmaceutiques, le dépôt Provera, les, toutes sortes de choses qui sont sur le marché auxquelles on souhaite, dans cette œuvre, avoir un regard critique, à partager une information complète pour aider les personnes à décider. Le cancer du sein, le ci, le ça, toutes ces choses-là font partie d'une vie, même d'une personne trans. Et donc, on espère qu'elles auront envie de cheminer avec nous et puis on verra. Peut-être que le livre s'appellera d'autres choses quand il sera fini. Je ne sais pas, on verra.
Qu'est-ce que vous aimeriez que votre ouvrage ait comme impact? Une fois qu'il sera créé, où vous voulez qu'on le retrouve? Est-ce que vous espérez qu'il soit, que ce soit un livre obligatoire dans les écoles? Quels sont vos rêves, Lorraine?
Non. De la minute que c'est un livre obligatoire, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on peut mettre ou pas mettre là-dedans. On va laisser faire ça. Déjà, on est en discussion avec une maison d'édition féministe qu'on espère qu'ils vont nous aider à publier. C'est-à-dire, quand je parlais avant de démocratisation d'information, c'est de rendre cette... Même à un moment donné, on se disait, est-ce qu'on les rend en petits fascicules pour qu'ils soient accessibles? Je trouve que l'œuvre comme telle imprimée va être importante. Elle pourrait être dans les mains des étudiantes en sexologie pour ouvrir leur pensée autour de ça. Pour les étudiantes en sociologie, les étudiants, toute personne qui s'intéresse à la santé dans le sens large. Le souhait, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre de personnes possible.
Mais Nesrine, est-ce que peut-être toi, avais-tu quand même en tête, quand tu t'es dit « je vais travailler pour la création de cet ouvrage-là parce que j'aurais tellement aimé que tel groupe de personnes l'ait ou de l'avoir en tant que fille » ou est-ce qu'il y a quand même un groupe ou un type de personne que vous dites « ça va être un outil particulièrement précieux » ?
Bien, moi, la motivation vient du fait que je sais que dans les groupes de femmes, comme tantôt, il y a plein de documents et d'informations qui sont là. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une brochure, on la distribue dans certains événements. Donc, c'est d'arriver à rassembler des informations qui existent, qui sont connues par des groupes de défense de droits, et de mettre ça dans un livre grand public, un livre qui va être dans une librairie ordinaire partout à côté de chez toi. Et ça, c'est le défi d'arriver aussi à écrire quelque chose qui soit à la fois critique et féministe, mais d'une façon accessible.
C'est aussi dans une optique sexo-positive, dans une optique anti-oppressive, c'est-à-dire, quand je disais avant, on ne juge pas. Il y a comme, c'était ça le souci du livre original, il y avait une diversité de réalités, puis c'était pas comme telle forme de telle expression sexuelle est plus intéressante, plus, tu sais, il y a pas de prescription dans le projet. Et c'est donc aussi dans ce plaisir de découvrir sa sexualité épanouie, positive, sans oppression, que ce livre se fait.
Au final, ça nous fait du bien aussi peut-être de parler ensemble de nos sexualités dans ces éléments plus difficiles, les éléments de violence, mais aussi effectivement, Lorraine, comme tu le mentionnes, dans ces éléments de joie et positifs, parce que c'est aussi ça la sexualité. Et donc, je vais terminer avec la question qui tue, c'est-à-dire quand est-ce qu'on pourra se procurer ce livre-ci?
Bien, dans notre échéancier, en fait, les éditions qu'on a approchées depuis déjà plusieurs années, les éditions du Remue-Ménage, qui ont dit qu'elles étaient intéressées, mais pour l'instant, elles n'ont pas lu ce qu'on a fait. Mais là, l'idée, c'est que le 1er mars, on leur remet quelque chose de fini. Et là, bien, embarque un processus d'édition, d'illustration, de révision qui, normalement, elle me disait, bien, ça serait genre au mois de septembre 2018. C'est une projection.
Bien, merci beaucoup, Lorraine et Nesrine, pour votre temps et vraiment longue vie. Espérons que vous aurez l'occasion de poursuivre le projet puis de sortir d'autres chapitres. Et d'ici là, on surveille la sortie du chapitre sur les relations intimes et la sexualité. Et donc, merci beaucoup à vous qui êtes membres de la collective pour un ouvrage de référence participatif sur la santé sexuelle.
Merci.
Merci.
Ce qui conclut cet épisode du balado d'Ève et Pandore. J'espère que ça vous a plu. C'était Florence Deslepage à l'animation. Merci à Audrey Gosselin-Pellerin de nous avoir partagé son entretien avec les membres de la collective L'Accord. pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou encore si vous désirez commenter l'émission, communiquez avec nous à travers la page Facebook d'Hervé Pandore. Dans le prochain épisode, on vous fait découvrir l'artiste Florence Yee qui, à travers une approche féministe, anticoloniale et ethnoculturelle, explore son identité cantonaise-canadienne. Alors, on se retrouve le mois prochain pour un autre balado féministe ou encore sur les ondes CKUT 90,3 FM pour notre émission régulière. Bye bye tout le monde!
Thank you. I'm Ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça. Après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis.
Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale, un message du gouvernement du Québec.
Tonight, sweetie, I'm making you your favorite meal. It's the least I can do after an entire week of taking away your phone, going through your messages, calling you names, insulting your friends, and shouting at you. Yeah, tonight, I'm making you your favorite meal so I can start another week of taking away your phone, going through your messages, calling you names, insulting your...
Violence against women stops here. Contact SOS Violence Conjugale. A message from the gouvernement du Québec.
Now Cara Patties is on a fast break with Veggie Patty leading the charge. The pass is down deep to Goat Patty. Goat Patty passes baseline to Beef Patty. Beef Patty shoots from downtown at the buzzer. And bingo! It's in! It's in! Cara Patties wins the game and is now the world champions! The number one in Montreal. Come on down to 9550 Jean Milo in LaSalle for the best patties, roadies, jerk chicken, and more. Or call us at 438-387-4004. Cara Patties, the champions of Montreal.